Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Aujourd'hui, plus qu'avant, les proches, quand ils rendent visite à leur, aux patients, nous demandent comment on va. C'est... Ouais.
Oui, on aimerait bien promettre à Anaïs Vinchennes qu'à partir de maintenant, on pensera toujours aux soignants. Comme on l'a fait au début de la crise sanitaire. Souvenez-vous, c'était tous les soirs à 20h. C'était il y a un an. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Et on continue la série sur la parole de soignants dans leur traversée du Covid avec Anaïs Vinchennes, médecin réanimateur médical. La réanimation, c'est un peu le cœur du réacteur depuis que la vague Covid a balayé les gens, les métiers, les calendriers. À 35 ans, Anaïs explique qu'elle a choisi d'être médecin réanimateur parce que c'était pour elle une voie alliant parfaitement les techniques, la science et l'humain. Elle parle d'une voix un peu lente, et je comprends mieux quand elle s'excuse à l'avance des bugs, comme elle dit, qu'elle pourrait avoir pendant la discussion. Anaïs rentre de 26 heures de garde, en continu. Alors on a commencé par parler de ça, des horaires d'un médecin, comme elle.
En temps normal, le temps de travail d'un praticien hospitalier, c'est d'une cinquantaine d'heures, 54, si je ne me trompe pas. Mais en pratique, c'est plutôt entre 60 et 120 heures, je pense. Par semaine, rythmé par des gardes. Donc les gardes officiellement durent 24 heures. On commence le matin, on finit le lendemain matin. En pratique, c'est plutôt entre 26 et 30, le temps de faire les transmissions, parfois de rester donner un coup de main ou finir un compte-rendu, faire un certificat, etc. Ça peut un petit peu prolonger les temps de travail.
Mais revenons à la Covid. On est à la toute fin 2019 et Anaïs Vinchennes travaille au service réanimation de l'hôpital Avicenne à Bobigny. Et c'est là que tout commence.
Au mois de décembre, on a commencé à avoir des bruits de couloirs avec un nouveau virus qui venait de Chine et dont on ne savait pas grand-chose, mais on en a pas mal ri au début. Et puis ça a commencé à se rapprocher. Quand on a commencé à voir ce qui se passait chez les Italiens, on riait un petit peu moins, mais on restait assez serein sur ce qui nous attendait. Et c'est enfin arrivé chez nous au mois de mars 2020. J'étais dans un CHU du 93, j'étais à l'hôpital Avicenne, en réanimation polyvalente. Et là, on n'a vraiment plus du tout vu la problématique de la même façon. J'étais à ce moment-là dans un service de réanimation qui a été particulièrement touché par cette première vague. Et on a pris une énorme vague de patients de plein fouet, des patients plutôt jeunes, et de prime abord, pas forcément très malade d'autre chose que de la Covid. Et ce qui a été vraiment effrayant, c'était la vitesse de dégradation de ces patients, avec des patients qui commencent à se sentir un petit peu moins bien à la maison, qui se consultent aux urgences dans les heures qui suivent, aux urgences qui se dégradent sur le plan respiratoire très très rapidement, avec des besoins d'oxygène qui explosent, et nous qui arrivons en bout de course pour les patients, avec des patients qui sont parfois presque en arrêt respiratoire. Voilà, c'est vraiment cette rapidité de dégradation qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer pour d'autres types de pathologies, qui a été vraiment très, très marquante. On est passé de 16 lits de réanimation à 32 lits de réanimation. Ça a été aussi marqué par la création de hublots qui ont été dessinés par un de mes collègues sur les portes des chambres de cardiologie qui ont été réquisitionnées pour mettre des patients Covid et des chambres qui ont été armées particulièrement rapidement grâce à la mobilisation de l'ensemble de l'équipe paramédicale, médicale et notamment le logisticien qui permettait de tout mettre en place assez rapidement en termes de matériel. Les premiers patients qui sont arrivés avec une maladie qu'on ne connaissait pas. On avait très peu d'informations venant de Chine. L'information médicale était particulièrement opaque et donc on n'était pas du tout préparé par rapport à ce qu'eux avaient pu vivre plusieurs mois auparavant. On avait une vague idée de ce qui s'était passé en Italie, Mais en Italie, je ne sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas vraiment été pris au sérieux, comme s'ils n'avaient peut-être pas su gérer. Enfin, voilà, c'est ma façon de percevoir les choses, mais j'ai l'impression que l'expérience italienne n'a pas servi à la France.
Non sono solo anziani, ci sono anche persone giovani e anche le persone relativamente giovani possono andare male.
Nous sommes à l'hôpital de Crémone, un hôpital en première ligne dans la lutte contre le coronavirus. Le premier patient est arrivé ici le 21 février, juste après avoir été détecté à Codogno. Depuis ce jour-là, plus rien n'est comme avant.
Alors effectivement, c'est une maladie qu'on ne connaît pas, mais c'est des symptômes qu'on sait prendre en charge. La détresse respiratoire sur une infection virale, c'est quelque chose qu'on sait prendre en charge en réanimation, que ce soit avec les épidémies de grippe ou même plus largement avec les infections respiratoires, même si elles sont bactériennes. Le syndrome de détresse respiratoire aiguë, le SDRA, c'est le quotidien du réanimateur. Donc ça, on sait très bien le prendre en charge. Et sur ça, on s'est probablement fait un petit peu avoir au début, dans le sens où on ne s'est pas tout de suite rendu compte des différentes complications liées à la maladie, spécifiquement liées au Covid, à savoir les thromboses avec les embolies pulmonaires qui ont été la cause de plusieurs décès de patients. Ça a été une maladie qu'on ne connaissait pas, donc on a essayé de traiter comme on pouvait. Il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites, beaucoup d'études cliniques. Et donc, c'est comme ça qu'est arrivée la chloroquine, les corticoïdes, le tocilizumab, etc. On a commencé par prendre en charge les patients, on les intubait initialement d'emblée. Puis, on a envisagé l'oxygénothérapie à haut débit. Et voilà, peut-être qu'on a permis à certains patients de passer le cap sans intubation avec l'oxygénothérapie qu'on refusait catégoriquement au début par peur de contamination de l'environnement. Et puis aussi devant le tableau de détresse absolue dans lequel arrivaient les patients. On n'avait aucune relation avec les familles au début. Puis on a réussi à mettre en place un système d'appel une à deux fois par jour pour donner des nouvelles des patients aux familles. Mais c'était souvent des nouvelles qui étaient données. Enfin, il y avait des équipes qui étaient dédiées aux nouvelles aux familles. Et voilà, je suis personnellement très attachée au relationnel, à l'humain dans ce métier. C'est une partie du métier qui me plaît particulièrement et qui permet aussi d'humaniser une médecine qui est très technique, puisque la réanimation, c'est très technique. Et le fait voilà, d'avoir des patients qui étaient tellement graves qu'ils ne pouvaient pas parler, de ne pas rencontrer les familles pour les aider aussi à cheminer, à se rendre compte de la maladie, pour les accompagner aussi quand le patient se dégradait jusqu'au décès. C'est quelque chose qui a profondément modifié le travail de réanimateur et le travail dans les services en général.
Face à la première vague, l'hôpital devient citadelle assiégée. Pour ses personnels, mis à rude épreuve à l'intérieur, un soutien très culinaire va se mettre en place.
Livraison, hôpital Bichat, le lundi 6. Voilà, on vous remercie beaucoup. Et bon appétit.
On vous remercie du courage que vous avez. C'est nous qui vous remercions le courage que vous avez et ce que vous faites aux êtres humains qui vous en ont besoin en ce moment. C'est moi, on est à l'hôpital. Ça nous touche plus que vous.
Une chaîne de solidarité nommée Vogato naît sur les réseaux sociaux. Elle va distribuer en 10 jours à des établissements médicaux dans toute la France près de 108 000 parts de gâteaux, cuisinées et distribuées par plus de 3000 bénévoles. Anaïs se souvient bien de cet élan. Elle parle de tonnes de sucreries et même de cosmétiques de luxe arrivées dans son service. Elle parle aussi des changements en interne que la pandémie va enclencher.
L'arrivée comme ça de cette déferlante de patients avec une pathologie nouvelle, ça a vraiment remis tout le monde au même niveau. Ça a aplani un petit peu la pyramide, tout en gardant un leader qui était notre chef de service, qui était vraiment notre phare dans la tempête. Et on devenait tous des maillons indispensables de cette chaîne de soins. Donc, en termes voilà, d'organisation et d'hierarchie, ça a modifié ouais, les positions de chacun. Ça a été une période particulièrement stimulante d'un point de vue scientifique, puisqu'il y a eu beaucoup de recherches, beaucoup d'avancées très rapides. Alors, on s'est cassé les dents sur certaines choses, mais il y a aussi des choses qui ont permis d'aider les patients, comme les corticoïdes, ne pas forcément les intuber d'emblée pour ceux qui le pouvaient. Et il y a eu également, sur le plan humain, une grande solidarité avec des renforts qui sont venus des quatre coins de la France. Pour nous, il y a des gens qui sont venus de Nantes, de Bordeaux, d'autres services. Il y a des équipes de chirurgiens qui sont venus donner des coups de main pour mettre les patients sur le ventre. Enfin, voilà, il y a eu vraiment beaucoup de bonne volonté. Et le sentiment que j'ai eu sur cette première vague, c'est que le meilleur de chacun des êtres humains qu'on était au service des patients. Vraiment, les patients qui ont été admis, ce sont des patients pour lesquels on avait le sentiment de pouvoir faire quelque chose en termes techniques et en termes humains. Je ne sais pas si ça a été la période où on a le mieux fait, mais en tout cas, on a essayé de faire le maximum pour que humainement, ça reste acceptable. Alors, à défaut de rencontrer les familles, donc comme je vous disais, il y avait les appels aux familles pour leur donner des nouvelles. Et quand ensuite, les choses ont commencé à prendre une espèce de rythme de croisière, on a pu mettre en place des appels en visio pour que les familles rencontrent visuellement les équipes, pour qu'ils se rendent compte aussi de l'environnement dans lequel évoluaient leurs proches. Et puis, pour les patients communicants, ils pouvaient également communiquer avec eux à travers des tablettes qui étaient gérées par certains de nos collègues. Cette crise Covid, on a l'impression qu'elle a évolué par phase, avec donc cette première phase qui a été très stimulante. On était, je pense, fiers et on voulait être en première ligne pour le soin, avec comme le sentiment de faire un petit peu partie de l'histoire. C'était quelque chose d'inédit pour nous dans nos vies, plus que dans nos carrières, mais dans nos vies en tout cas d'être humain. Une telle pandémie, c'est quelque chose qui était historique. Et donc, il y a eu cette première phase où tout le monde voulait mettre la main à la pâte, tout le monde voulait participer, avec de nombreux renforts qui sont venus sur les régions les plus touchées. À la fin de la première vague, le soufflet est retombé. Il y a eu, dans les équipes, un sentiment de fatigue, de fatigue. Je pense qu'on était vide. On s'est tous sentis vide. Un peu comme s'il y avait maintenant une place à occuper. Et ce vide a été rapidement comblé par le retour des patients qui n'avaient pas été pris en charge, qui étaient restés chez eux, qui avaient attendu le plus longtemps possible avant de revenir à l'hôpital, soit par peur d'attraper le Covid, soit par solidarité, entre guillemets, pour éviter de surcharger les services. Et on a eu affaire à des patients qui étaient dans des états très graves, des situations qui étaient devenues anecdotiques. Et là, on a eu beaucoup de patients particulièrement graves au décours de cet épisode. Ça, c'était plutôt au mois de juin-juillet. Puis, sur la période de l'été, souvent les réanimations, c'est une période un petit peu plus calme où les équipes peuvent souffler un petit peu. Et on a eu de l'activité tout l'été. Ça ne s'est pas calmé comme les étés habituellement. Et puis, à l'automne, au retour des vacances, est arrivée la deuxième vague. Donc, là, on est reparti sur cette deuxième vague un petit peu moins enthousiaste, mais serein sur nos compétences, sur la capacité à prendre en charge les patients. Et puis, on s'est rendu compte que c'était une vague qui n'était pas aussi importante que la première, qui n'était pas aussi explosive. Et puis, le matériel était sur place, les équipes étaient rodées, moins enthousiastes, mais rodées. Et voilà. Et puis, on a vu venir la troisième vague. Troisième vague qui monte tranquillement en puissance, et puis là, qui dépasse la deuxième, avec des équipes qui sont lasses de la situation, qui aiment toujours leur travail. Je pense qu'on aime toujours notre travail, mais on a l'impression de pas réussir à faire face. Et on se rend bien compte qu'il y a des patients qui sont, par la faute du Covid, laissés sur le bord de la route et qu'on ne peut pas en prendre en charge correctement, en tout cas comme on le souhaiterait. Tout ça, ça a un impact sur la santé des patients et sur le moral aussi des équipes. C'est l'histoire qui se répète continuellement. Et on a l'impression de ne pas voir la lumière au bout du tunnel. Je ne sais pas si on aurait pu faire les choses différemment. Alors, si, on aurait pu faire les choses différemment, mais je ne sais pas si ça aurait été mieux. Je pense que les décisions sont particulièrement compliquées à prendre pour avoir discuté avec les psychologues et psychiatres de l'hôpital pédiatrique où je travaille l'impact du confinement sur les enfants et les adolescents en termes de maladies psychiatriques est terrible. Et ils font face aujourd'hui à un grand nombre de décompensations de maladies psychiatriques pour lesquelles ils n'ont même pas les moyens d'hospitaliser les enfants pour les stabiliser. Donc il y a des enfants et des adolescents qui sont en décompensation au domicile, ce qui n'arrive pas habituellement, ou en tout cas pas dans ces proportions. Donc effectivement, nous, de notre point de vue de soignants en réanimation, on aimerait que ce soit un confinement strict pour arrêter la vague comme ça a été le cas pour la première. Mais on se rend bien compte que pour des raisons sociales, psychiatriques, économiques, les choses ne sont pas possibles de la même façon cette fois-ci. On parle beaucoup de tri en ce moment sur cette troisième vague, mais de base, le travail de soignants et de médecins consiste à discuter la balance bénéfice-risque pour les patients et l'intérêt de l'admission dans un service de réanimation ou l'intérêt de tel ou tel traitement pour un patient. Et donc ça, ça fait partie de notre quotidien. Et à partir du moment où c'est quelque chose qui est réfléchi, qui est discuté de façon pluridisciplinaire et pour le patient, ça, c'est quelque chose qui est humainement accepté et acceptable. Ce qui est plus compliqué dans la crise actuelle, c'est qu'on peut avoir l'impression qu'il y a une certaine forme de tri. Alors, il semblerait qu'il y ait une différence entre le tri et l'autocensure. Le tri qui serait quelque chose de plutôt institutionnalisé, donc validé par nos politiques, validé par notre hiérarchie hospitalière, et l'autocensure qui serait le fait de refuser des patients en réanimation sans que ça remonte et sans que ce soit validé par nos supérieurs, ce qui revient à une décision qui relève de notre responsabilité, ça engage notre responsabilité de soignant, et à partir du moment où c'est notre responsabilité, il n'y a pas de tri, c'est l'autocensure. Aujourd'hui, déprogrammer des opérations nécessaires, pas forcément vitales, décaler des chimiothérapies, c'est d'une certaine façon faire un tri. C'est-à-dire qu'on privilégie une prise en charge aiguë d'un patient en détresse respiratoire sur une chirurgie nécessaire mais non vitale. Bon, sur une crise qui dure 3 mois, je pense que c'est acceptable. Quand ça commence à s'étendre sur le temps, à durer 1 an, il peut y avoir des effets effectivement particulièrement délétères, pas forcément mortels, hein, mais en tout cas délétères pour les patients. Je ne crois pas que les gens soient démotivés. J'ai plus l'impression qu'on est un petit peu déçus du manque de reconnaissance des pouvoirs publics. Je ne crois pas qu'on manque de reconnaissance des patients ou des familles. Au contraire, on a des retours toujours très positifs, quelle que soit l'issue pour le patient. On a des familles très compréhensives. Et ça, ça a été particulièrement étonnant pendant le Covid. Quand on appelait les familles pour leur annoncer des nouvelles, parfois, voire souvent terribles, les familles qui venaient d'encaisser la nouvelle nous souhaitaient bon courage. Et aujourd'hui, plus qu'avant, les proches, quand ils rendent visite à aux patients, nous demandent comment on va. C'est... Donc, du côté des patients et des familles, il y a vraiment une reconnaissance, une bienveillance qui nous apaise et qui contrebalance le sentiment d'abandon qu'on a vis-à-vis des politiques. Déjà, c'est bête, hein, mais par rapport au vaccin, le fait que tous les soignants en première ligne ne soient pas prioritaires pour la vaccination, c'est une décision qu'on a eu un petit peu de mal à comprendre. Il y a probablement des raisons politiques qui l'expliquent, mais en tout cas, d'un point de vue sanitaire, on n'a pas bien compris. C'est une petite blague entre nous, on dit toujours qu'un soignant mort est un soignant inutile. Mais ça, c'est une petite blague. C'est notre humour.
Merci Anaïs Vinchen, médecin réanimateur, qui décollera bientôt pour rejoindre Mayotte. Pas pour des vacances, mais le temps d'un remplacement. Elle est liée à cette terre depuis qu'en jeune interne, elle y a élaboré un protocole de prise en charge des victimes d'agressions sexuelles. C'était le sujet de sa thèse de médecine générale. Elle a été particulièrement saluée. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann. Pour le prochain épisode des soignants dans leur traversée du Covid, on partira à la rencontre d'une infirmière qui n'a pas raccroché la blouse, mais a quand même vraiment changé de vie depuis la première vague. Pour suivre la story, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de streaming et de téléchargement de podcasts comme Spotify ou Apple et à nous donner 5 étoiles si nos émissions vous ont plu. Pour suivre l'actualité à travers nos articles, nos analyses ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur leséchos.fr.